vienne, celui qui se dit semblable à moi, que je lui crache à la gueule. Cette phrase d'un des grands révoltés du siècle, qui a été Arthur Cravant, que André Breton nous a fait découvrir à l'époque où il nous faisait découvrir également Jacques Vacher, c'est une phrase que je voulais citer au moment où nous allons rendre visite à Arthur Cravant, exactement comme lui-même, quelques années auparavant, s'était rendu célèbre par une visite à André Gide, qui est une des visites les plus drôlatiques qu'on puisse lire et dont je vous parlerai ensuite. Nous sommes au kilomètre 271 depuis Source-Seine, et c'est à ce kilomètre 271, au 11 bis de la rue Delambre, à Montparnasse, que je vais vous emmener à la rencontre d'Arthur Cravant. C'était un personnage tout à fait étonnant, qui était le neveu, paraît-il, d'Oscar Wilde, du moins le prétendait-il, on n'a jamais su la mesure dans laquelle il était mythomane et la mesure dans laquelle il était simplement poète. C'était le neveu d'Oscar Wilde et le fils d'un Queen's Counsel, c'est-à-dire d'un avocat auprès de la reine Victoria. Il s'appelait de son vrai nom Fabian Avenarius Lloyd et pas du tout Arthur Cravant. Il a pris ce nom de Cravant d'après sa première petite amie française avec laquelle il a vécu dans les années 1900 et qui habitait ici, au 11 bis rue de Lambre. Et c'est Mademoiselle Cravant qui a donné naissance à Arthur Cravant et à son mythe. Il était né en 1887 à Lausanne, il était à moitié suisse et il s'est d'abord fait connaître par ses talents de boxeur. Il a même été champion de France des mi-lourds. Il boxait et en même temps il écrivait des poèmes. En même temps, il était critique d'art, il avait créé une revue qu'il distribuait lui-même dans une charrette à bras. Cette revue s'appelait « Maintenant » et il expédiait l'art moderne avec une vivacité, une drôlerie absolument irrésistible. C'était un personnage grand, beau, très anglais, à moitié dingue, qui a fasciné beaucoup de peintres de son temps, qui a fasciné Picabia, qui a fasciné de très grands critiques comme l'anarchiste Félix Fénéon par son énergie et sa drôlerie irrésistible. Quand il parlait des peintres, par exemple, il pouvait dire des choses très exactes sur Kiesling ou sur Metzinger, et puis de temps en temps, certains peintres attiraient sa verve comme Sonia Delaunay ou plus spécialement Marie Laurencin qu'il avait voué aux pires outrages sexuels, ce qui lui a valu de se faire défier en duel par Guillaume Apollinaire. Et derrière cette modernité, cette première modernité qui annonce Dada, qui annonce le surréalisme, derrière cette violence, derrière cette espèce de nihilisme, affleure une grande amertume qui le rend profondément fraternel et sympathique. Moi, à qui il suffit d'un air de violon pour me donner la rage de vivre, moi qui pourrais me tuer de plaisir, mourir d'amour pour toutes les femmes, je suis ici parce que la vie n'a pas de solution. Il était, je le disais, devenu l'ami de Fénéon, ce dandy anarchiste des années 1890, qui était par ailleurs employé dans un bureau de l'administration où il écrivait des articles de code avec une plume d'une sûreté stendhalienne. Fénéon, qui a découvert à la fois Apollinaire et l'art nègre, qui a véritablement été un très très grand précurseur du monde nouveau et qui avait été traîné en justice en 1894 parce qu'il avait manifesté des sympathies pour les anarchistes. Et c'était l'un des amis les plus proches de Cravant, et on peut penser que Cravant l'a reçu ici, au 11 bis rue de Lambre, à de nombreuses reprises. Cravant, en dehors de ses activités de critique d'art, était également un poète. Il avait inventé une forme dont il attendait énormément de choses, qui était le prosopoème, qui était quelque chose de plus qu'un poème en prose. Et en réalité, ce qu'il écrit ressemble beaucoup à ses deux grands rivaux, à ceux qu'il considérait comme ses deux grands rivaux, qui étaient Apollinaire et Sandrart. Des palmiers et des tours, manufacture, comme un beau charbonnier. En 1913, il se rend célèbre par une visite qu'il publie dans sa revue Maintenant, que Breton a reproduite, si je me souviens bien, dans son anthologie de l'humour noir, qui est une extraordinaire visite à André Gide, rue Vaneau. Gide est à l'époque le personnage omnidominant des lettres françaises, le Bouddha chinois de la NRF, à la fois extrêmement libre et extrêmement précautionneux. Et Cravant lui rend visite et il donne de cette visite une relation absolument extraordinaire, d'une ironie absolument épouvantable, où il imagine d'ailleurs que, séduisant Gide grâce à sa belle apparence, ils partent tous les deux comme une sorte de couple gay moderne, et que Gide, payant les coupés de première classe et les ânes, ils arpentent la côte des Somalies en quête d'aventure masculine, ce qui était quand même une forme d'outing de Gide, qui était, malgré Coridon, d'une assez grande violence à l'époque. Cravant avait écrit « Qu'on le sache une fois pour toutes, je ne veux pas me civiliser ». Et la fin de cette visite est restée absolument célèbre par le quiproquo qu'elle contient, puisque Cravant, quittant Gide, lui dit « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ?» Et Gide, évidemment, comprenant qu'on lui demande simplement l'heure, alors que il était question de lui demander une pensée métaphysique, répond qu'il est 5h moins le quart, sur quoi Cravant prend sa plume et ses crayons et s'en va. Vient la guerre, Cravant quitte la France, il quitte les provoques individuelles et à l'heure des grandes provoques collectives, et il prend un bateau pour New York, et sur ce bateau, il rencontre Léon Trotsky, qui l'a raconté dans sa correspondance et qui explique qu'il est tombé face à un homme tout à fait étonnant, qui expliquait qu'il préférait boxer à titre individuel et non pas boxer dans le grand système de boxe des nations. Ensuite, il arrive très pauvre, il vit grâce à un galeriste à New York, il dort à Central Park parmi les écureuils et pour finir, il part pour le Mexique. Il arrive à Mexico et à Mexico, il donne des cours de boxe puisqu'après tout, il était champion de France de boxe et que c'était sa grande spécialité. Il racontait dans un de ses poèmes qu'il aimait bourrer ses gants de boxe avec des boucles de femmes. Et puis après avoir enseigné quelque temps à Mexico, il s'embarque pour Veracruz afin d'y disputer un combat régional de l'Amérique latine et c'est là qu'il disparaît. À peu près au même moment qu'Apollinaire dans le golfe du Mexique en novembre 1918. Breton a écrit sur cette disparition des choses émouvante. Et en les lisant, on pense à cette phrase qui a été celle de Cravant, de celle de cette étrange destinée inaboutie. L'homme n'est si infortuné que parce que 1000 âmes habitent un seul corps.